7h16 sur France Culture.
Le Monde selon Hubert Védrine.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Vous voulez revenir sur la visite du président Obama à Hiroshima et à ses conséquences, à ce qu'elle raconte finalement sur l'arsenal nucléaire, sur sa position par rapport au nucléaire.
Oui, cette visite d'Obama le 27 mai à Hiroshima, qui avait été frappée par une bombe nucléaire le 6 août 1945, à 71 ans, m'amène à reparler du nucléaire et c'était l'occasion de dire où en est-on en fait sur le nucléaire. Je dirais d'ailleurs avant que c'est une visite émouvante et Obama utilise de façon absolument extraordinaire les derniers mois de son mandat. Il n'est pas du tout un canard boiteux, contrairement à ce qu'on dit aux États-Unis des présidents finissants. Mais c'est une visite controversée parce que les Chinois et les Coréens ont trouvé que ça disculpait les Japonais. Et que le point de départ de tout ça, c'est l'agression militariste japonaise dans l'ensemble de l'Asie, mais ce n'est pas le sujet principal. Nucléaire militaire. Il était développé à outrance pendant la guerre froide, pendant des décennies, essentiellement par les soviétiques et par les américains. Les chiffres des autres puissances nucléaires ont toujours été peanuts par rapport à ceux des grandes puissances nucléaires de l'époque. Et même s'il y a eu en 1970 la signature du traité de non-prolifération pour ceux qui n'avaient pas encore l'arme nucléaire, c'était transgressé par 4-5 pays d'ailleurs, en 1982, il y avait 50 000 armes nucléaire. Mmh. Il y a une distinction entre les armes et les têtes, parce qu'il y a des fusées qui ont plusieurs têtes. Alors qu'il y avait déjà eu le début du commencement de la négociation d'encadrement puis de désarmement, à l'époque Nixon-Kissinger, qui ont lancé ça, les négociations dites SALT, limitation, entre 72 et 79, puis de réduction, négociation dite START, entre 1991 et 93. Donc on est encore en 1982 à 50 000 armes. Alors après, il y a une dénucléarisation très lente, mais presque tous les présidents américains ont réduit, les soviétiques plus de façon chaotique. Par exemple, George W. Bush en avait supprimé 5300. Mm-hmm. Bill Clinton, 3100. George Herbert Bush, le Bush père, 9400. Mais même Reagan avait commencé. Il en avait supprimé environ 900. Alors Obama, à son tour, alors qu'il avait fait ce discours à Prague en avril 2009 sur un monde dénucléarisé, il en a supprimé un peu moins. Il est vrai que beaucoup avaient été supprimés avant. Il en a supprimé, lui, 700 environ. Bon, donc aujourd'hui, on est, selon qu'on compte en armes ou en têtes, entre 6000 et 16000. Donc ça n'a rien à voir avec les 50000 du début des années 80, mais évidemment c'est encore beaucoup. Donc un mouvement de réduction, c'est un mouvement assez lent. Il y a une controverse théorique sur le monde dénucléarisé, à supposer qu'on puisse y arriver. Est-ce qu'il serait plus sûr? Évidemment, il serait plus sûr sur le plan nucléaire, puisqu'il n'y aurait pas le risque de l'explosion de l'arme nucléaire. Est-ce qu'il serait plus sûr sur le plan des conflits classiques? Sans doute pas. La plupart des experts pensent que cette disparition, si elle existait, ferait sauter une sorte de verrou par rapport à certains types de conflits. Mais de toute façon, quand on prend les puissances nucléaires, quelle est celle qui renoncerait complètement, à moins qu'il y ait un jour, dans X années, un processus général? On ne voit pas les États-Unis renoncer, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde, ni le Pakistan, ni Israël. La Grande-Bretagne ou la France peut-être, mais à ce moment-là, elles seraient dénucléarisées toutes seules, vous voyez. Alors qu'elles ont un nombre limité, du genre 300 têtes par rapport aux milliers qui existent encore. Donc c'est peu probable qu'on voit un vrai processus de dénucléarisation aller à son terme complet, peu probable. En revanche, la réduction est tout à fait non seulement souhaitable, bien sûr, à condition qu'elle soit équilibrée, mais elle est tout à fait possible.
Mais cette réduction, elle a un intérêt symbolique, mais le monde conserve encore un arsenal qui est suffisant pour se détruire plusieurs fois lui-même, puisque lorsque vous citez ces chiffres, 2000 têtes, 5000 têtes nucléaires.
Bien sûr, mais tout ça c'est l'escalade de la guerre froide, parce qu'il fallait sans arrêt avoir des armes qui pouvaient percer les défenses antimissiles adverses. Et des armes avec plusieurs têtes pour être sûr de toucher plusieurs sites, pour que l'adversaire, au bout du compte, soit découragé de son attaque éventuelle. Ce sont des armes, non pas d'emploi, même s'il y a eu des doctrines qui ont dérivé sur ce plan, des armes de dissuasion. Donc il fallait avoir un dispositif dont on soit sûr, et l'adversaire ne peut pas se dire qu'en une première fois, il va tout détruire, parce qu'il faut une capacité qu'on appelle de seconde frappe. Enfin, il y a 30, 40, 50 années de développement théorique là-dessus. L'objectif étant qu'il n'y ait pas la guerre.
Mais l'autre...
La dissuasion l'emporte. Mais vous avez raison, on pourrait tout à fait réduire les arsenaux russes et américains jusqu'à des niveaux, disons, comparables au niveau des autres puissances actuelles. C'est ce qu'on appelle la dissuasion au niveau minimum, la dissuasion à la française, la vraie dissuasion. Et à ce moment-là, je poserai la question de voir si toutes les puissances nucléaires ramenées à des niveaux beaucoup plus bas franchissent le pas ultime, en gardant peut-être 2-3 sous-marins chacune pendant 20 ans pour voir comment ça tourne. Et comme c'est des raisonnements à 20-30 ans, alors dans ceux qui ne l'ont pas, il faut les décourager de l'avoir, bien sûr, c'est ce qui s'est passé avec l'Iran, mais c'est à 20 ou 30 ans. Donc c'est compliqué pour le dirigeant d'un pays qui l'a de dire « je suis tellement sûr que le monde va être totalement paisible dans 30 ans que j'arrête ». C'est pour ça que ça ne va pas plus loin pour le moment, même si, je le répète, je pense que ceux qui nous écoutent devraient être rassurés sur ce point, il y a quand même un processus de dénucléarisation militaire lent. Mais je voudrais terminer, si j'ai encore une minute, sur l'affaire de l'énergie nucléaire civile. Rappelons quand même que même 5 ans après Fukushima, après le plus grand tremblement de terre qu'on a jamais enregistré au Japon, et 30 ans après Tchernobyl, il y a encore 440 réacteurs nucléaires dans le monde. 440. Et ça ne bouge pas, en réalité. Le nucléaire diminue en Europe. Enfin, dans une partie de l'Europe, ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne, par exemple. C'est un petit peu le cas en France, réduction, mais pas élimination. Et la Chine n'est pas du tout sur cette ligne, puisqu'elle, pour réduire le CO2, donc fermer le charbon, il n'y a pas d'autre solution. Elle prévoit d'avoir 110 centrales nucléaires en 2030. Donc en construire 5 à 8 par an. Donc là aussi, ça va continuer, simplement il faut le rendre plus sûr.
Merci beaucoup Hubert Védrine. 7h22 sur France Culture, une chronique à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr, où l'on peut également la télécharger.